Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Après trois premières séances qui pourraient être considérées comme des séances quelque peu de contextualisation, puisque nous avons envisagé tout d'abord le contexte de naissance de l'islam, puis la vie du prophète Mohammed et la naissance de la première communauté, et enfin, la semaine dernière, le déploiement historique, géographique et culturel de l'islam à travers les siècles. Un bref regard, un bref aperçu, mais pour prendre la mesure de son ampleur. Après ces trois séances qui peuvent être considérées comme de contextualisation, donc nous abordons maintenant progressivement une entrée plus vive dans la matière, avec ce soir une leçon qui est consacrée au Coran et à la tradition du prophète, source de la foi. Le Coran tient une place tout à fait fondamentale dans la foi de l'islam. Il est réellement la parole de Dieu révélée, et un musulman qui avait une pratique importante du dialogue islamo-chrétien avait cette belle expression de dire que, d'une certaine façon, le Coran tient dans l'islam la place que le Christ tient dans le christianisme. Pour les chrétiens, la parole de Dieu, c'est le Christ. Pour les musulmans, c'est le Coran. Le prophète Mohammed, bien qu'entouré d'une énorme vénération, d'un grand respect, n'est qu'un homme comme les autres, mais la parole de Dieu, ce qui est la révélation, c'est le texte du Coran lui-même. Et c'est dire que le livre, comme objet, tient aussi une place très importante dans la vie des croyants. On ne l'alignera pas dans une bibliothèque au milieu d'autres livres. Il a un statut particulier, et pour poursuivre la comparaison qui est établie entre Jésus et le Coran, ben on pourrait mettre un certain parallèle dans le respect porté au Coran avec le respect que portent les chrétiens au corps du Christ dans l'Eucharistie. La parole de Dieu tient dans la vie des croyants une place évidemment tout à fait importante. Et pour les musulmans, cette parole de Dieu, elle est dans le Coran. Le Coran dans son ensemble, c'est dire que le Coran n'est pas d'abord un livre à disséquer ou à analyser, mais un ensemble à recevoir comme étant un tout qui, dans son ensemble, est la révélation que Dieu donne aux hommes par le prophète Mohammed. Le rôle du prophète a juste été un rôle de transmission. Et c'est le point de vue, d'ailleurs, que l'islam adopte pour les révélations antérieures au Coran, la Torah ou l'Évangile, mais ce l'est éminemment du livre de l'islam et de chacune de ses parties d'être vraiment ce livre révélé que Dieu donne aux hommes. Les versets du Coran s'appellent ayat, ce qui veut dire en arabe des signes. Car le Coran et chacun de ses versets est d'abord un signe de Dieu lui-même. Du point de vue musulman, chaque prophète a reçu un miracle prophétique qui venait attester la véracité de sa mission. Pour Jésus, par exemple, c'est sa capacité à faire des miracles. C'est là ce qui atteste de l'authenticité de la mission prophétique de Jésus. Le miracle prophétique, pour Mohammed, est le Coran lui-même, dont la beauté est signe de Dieu et authentifie sa mission aux yeux des hommes. Ces versets, ces signes de Dieu, sont au nombre de 6226 dans le Coran, qui, dans son ensemble, est lui aussi signe de Dieu. Et ces 6226 versets sont regroupés par le texte officiel reçu en 114 chapitres ou sourates. Donc quand on dit sourate, c'est un chapitre. Il y en a 114. Le mot Coran, Qur'an, signifie en syriaque lecture. C'est le terme utilisé par le christianisme syriaque, par exemple, pour les lectures de la messe. Mais en arabe, qara'a reçoit plus précisément que lire le sens de réciter. Il y a une dimension orale fondamentale dans la conception du Coran. Il est une parole récitée, proclamée. Le commandement que le prophète Mohammed recevra plusieurs fois, Ikra, c'est récite. Ce que Dieu lui demande, c'est de réciter. Alors ça ne veut pas dire qu'un texte écrit lui était présenté. Non, il ne devait pas lire, il devait réciter. Et les traditions musulmanes évoquent d'ailleurs plusieurs modes de transmission de la révélation qui se réfèrent tantôt à une révélation reçue par l'ouïe, dans la littéralité de mots humains, ou dans le cœur du prophète. Hein, ce qui est à réciter, qui est révélé, n'est pas d'abord un texte écrit. C'est la parole même de Dieu qui est reçue et redite par l'envoyé de Dieu qui a charge de la transmettre aux hommes. Le Coran est ainsi devenu pour le croyant l'objet d'une véritable dévotion. Et cette dévotion est nourrie par la beauté du style et du rythme arabe, et c'est une des difficultés que l'on a quand on aborde le Coran en traduction, c'est qu'on ne perçoit pas la beauté du texte. Une traduction est rarement belle si elle se veut un peu fidèle à la littéralité du texte, et si elle veut être belle, elle s'en écarte souvent très fort. Donc quand on lit le Coran en traduction, on n'a pas cette première impression d'être confronté ou de découvrir un beau texte. Tandis que l'arabophone qui le récite ou qui l'entend réciter est porté par cette beauté du texte. Donc il y a une beauté du style et du rythme arabe du texte. Mais cette vénération est aussi justifiée par la référence qui est plusieurs fois donnée dans le texte même à un Coran préexistant à celui qui est révélé au prophète Mohammed. On utilisera l'expression de Umm el-Kitab, le livre mère, qui est de toute éternité auprès de Dieu, qui est parole éternelle de Dieu et qui est descendu sur le prophète à travers la révélation. Ce livre mère s'identifie à un attribut divin de la parole et qui est subsistant en Dieu. Les textes récités par Mohammed sont ceux-là même que Dieu a voulu transmettre aux hommes en ce message définitif, reprenant le contenu des révélations antérieures, tout en les libérant des manipulations humaines qui les avaient affectés. Donc le schéma de révélation qui est présent dans la tradition musulmane, c'est un schéma de révélation où Dieu, à travers l'histoire de l'humanité, donne à plusieurs reprises sa révélation, qui est toujours la même. Donc la révélation du Coran n'est pas différente de la révélation de l'Évangile à Jésus, ni de la révélation de la Torah à Moïse, et les divergences que vous pouvez percevoir éventuellement, si vous avez un œil très affûté, en comparant les trois textes, le Coran, l'Évangile et la Torah, sont des divergences qui sont juste dues à des défauts de transmission par les transmetteurs au fil des siècles. Donc si vous voulez avoir la version authentique et définitive de l'unique révélation que Dieu a donnée aux hommes à travers toute l'histoire de l'humanité, il vous suffit de lire le Coran et ne vous attardez pas à des versions dépassées de cette révélation qui ont souffert des aléas de l'histoire dans leur transmission. Donc cette conception de la révélation donne une prééminence absolue à la révélation telle qu'elle est contenue dans le Coran. La mission de Mohammed est d'être le sceau de la prophétie. En lui, la prophétie, la révélation par Dieu de son message, trouve son aboutissement, sa reprise définitive. Le Coran, récitation, a aussi comme synonyme le livre. Quand on parle le livre, sans préciser, on parle du Coran. Mais c'est aussi pour le croyant l'avertissement, parce qu'il met en garde contre l'oubli de Dieu dans nos vies. Il avertit le croyant de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut ne pas faire. Et il est donc aussi la loi divine, qui impose à la créature raisonnable les obligations qu'elle doit accomplir. Et par là même, il est aussi la division qui permet de distinguer entre le bien qui est à faire et le mal qui est à ne pas faire et à interdire. Comme je le disais en commençant, le Coran doit être pris comme un tout. Donc, toute analyse trop rationnelle de son contenu qui voudrait le fragmenter en serait une trahison. Et les analyses qui en sont faites précisément pour percevoir le sens du tout, la cohérence de l'ensemble. Car effectivement, très vite, la tradition musulmane développera des outils d'analyse et où on disséquera des versets, mot par mot, pour essayer de retrouver le sens qu'il pouvait avoir éventuellement dans l'arabe pré-islamique et des choses pareilles. Donc il y aura un travail linguistique très précis fait sur les versets du Coran, mais dont la finalité est toujours de contribuer à l'intelligence du tout de la révélation. Cette adhésion globale étant acquise, les traditions musulmanes distinguent, comme nous l'avons vu lorsque nous avons fait le petit parcours de la vie du prophète Mohammed, distinguent la partie de la révélation qui est donnée, qui est descendue à la Mecque, et les sourates qui sont descendues à Médine. Les traditions musulmanes tiennent compte également des conditions historiques et sociales de la révélation. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une critique historique au sens où nous l'entendrions, mais ce qu'on appelle en arabe « asbab en nuzul », les causes de la descente aident à comprendre pourquoi telle révélation est descendue. Donc la répartition entre les sourates de la Mecque et celles de Médine, mais au sein même de ces sourates de la Mecque ou de ces sourates de Médine, mais le contexte, l'occasion à laquelle, au cours de laquelle Dieu a souhaité faire descendre telle révélation, la cause de la révélation, aide à en comprendre le sens. Les techniques de lecture et d'interprétation tiennent également compte des versets abrogeants et abrogés, car on se rend bien compte qu'il y a quelques versets qui présentent des contradictions entre eux dans le Coran, et donc la manière de résoudre, de lever ces contradictions a été, dès les origines de l'islam, en étant précisément attentif aux causes de la révélation, de comprendre comment certains versets se trouvent abrogeants d'un verset qui se trouve de ce fait abrogé. Il ne s'agit pas d'un acte aléatoire du lecteur qui choisit tel ou tel verset, mais bien d'une lecture qui essaie d'entrer dans l'intelligence de ce mouvement de révélation de la parole de Dieu. Et cet acte d'abrogation qui assume donc d'une certaine façon les circonstances et leur contingence est une des prérogatives divine dans la parole que Dieu adresse aux hommes. Ce n'est pas un choix délibéré du lecteur, du commentateur, de considérer que tel ou tel texte est abrogé, mais d'essayer de percevoir ce que Dieu a réalisé en abrogeant tel verset au profit d'un autre. Le Coran a été regroupé traditionnellement par les musulmans en différents grands thèmes. On considère en général qu'on peut regrouper les matières révélées d'une part dans les croyances de foi, le credo d'une certaine façon, puis le culte prescrit, tout ce qu'il convient de faire comme croyant pour rendre de façon adéquate un culte à Dieu. Toute la partie de la révélation, enfin, ensuite, qui concerne l'agir de l'homme en sa finalité morale. La matière du Coran développe une série de thèmes relatifs au comportement moral de l'homme. Et enfin, il y a toute une partie qui touche aux relations sociales des hommes entre eux. Si vous regardez le calendrier de nos rencontres, c'est la matière des deux prochaines séances. La semaine prochaine, nous verrons croyances de foi et culte prescrit, les deux premiers, et la semaine suivante, l'agir de l'homme en sa finalité morale et les relations sociales des hommes entre eux. Donc ces trois séances, celle d'aujourd'hui et les deux prochaines, forment un tout. Donc la semaine prochaine et la suivante, nous entrerons dans la matière de ce qui est révélé dans le Coran. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, plus précisément avec vous, après cette introduction un peu générale sur la place, pour essayer de faire sentir la place tout à fait particulière que tient le Coran dans la vie du croyant, dans la vie des musulmans, ce que je voudrais faire avec vous maintenant, c'est de nous intéresser à l'histoire de ce texte. Il y a un événement de révélation qui remonte à la vie du prophète Mohammed, et aujourd'hui nous disposons de textes imprimés. Que s'est-il passé entre les deux pour comprendre cette histoire? Je vais, pour ce faire, tout d'abord donner la version traditionnelle, celle que porte la tradition musulmane sur la constitution du recueil. Je relèverai ensuite deux enjeux qui me paraissent importants, amène sans doute à mettre dans une perspective un peu plus large. Mais regardons d'abord ce que dit la tradition musulmane elle-même à propos de la constitution de ce recueil de la révélation. À l'époque de la prédication du prophète, les auditeurs retiennent par cœur. On est dans une tradition qui est fortement orale. Toute la grande poésie pré-islamique, par exemple, semble avoir été conservée de façon orale avant d'être mise par écrit plus tard. Et donc la révélation elle-même a été conservée d'abord de façon orale, et certains s'y spécialisaient à tel point qu'on les appelait les porteurs du Coran. Ils portaient le Coran non pas comme en portant un livre, mais en le portant dans leur cœur et dans leur mémoire. Du vivant du prophète, déjà selon la tradition, il y aurait eu un début de mise par écrit sur des matériaux rudimentaires et en utilisant une graphie encore peu précise. On parle d'omoplates, de chameaux, de supports de ce type, qui servaient à garder tel ou tel élément de la révélation, mais sans doute pas tellement dans un souci de transcription que dans un souci de vénération, de constituer un bel objet qui porte un élément de la révélation. Des recueils individuels se formerait déjà à cette époque-là, des recueils qui toutefois portent des divergences importantes. Alors après la mort du prophète, le premier calife bien guidé, Abou Bakr, 632-634, donc période très courte de 2 ans, s'inquiète des divergences. Et il craint aussi que la mort de nombreux porteurs du Coran ne fasse perdre la révélation. Et sur le conseil de Omar, il aurait chargé Zayd bin Thabit de procéder à une recension officielle. Donc il y aurait eu, sous le premier calife déjà, un essai de première recension officielle. Mais d'autres recueils continuent à circuler. C'est sous le troisième calife bien guidé, Othman, dont le règne est un peu plus long, de 644 à 656, que la tradition situe la première élaboration d'une version unique du texte de la Révélation. Othman décide de constituer une recension unique du Coran à partir du recueil de Omar, mais en le complétant aussi par d'autres recueils. C'est l'époque où se fixe ce qu'on appelle le ductus consonantique, le nombre et l'ordre des sourates, qui sont classés hormis la première par ordre de longueur décroissante, et la division en versets non numérotés. Cette version est appelée la Vulgate de Othman. Et la tradition nous dit que des copies sont envoyées à 4 ou à 7 villes avec la demande expresse de détruire les autres textes. Mais ces autres textes seront sans doute pour une part détruits, mais continueront à influencer la lecture de Ousmane. Car la langue arabe, à ce moment-là, est une langue dont l'alphabet est encore excessivement peu précis. C'est dans l'étape suivante qu'il y aura ce qu'on appelle l'introduction des voyelles brèves et l'introduction des points diacritiques. Pour ceux qui ne connaissent pas l'alphabet arabe, je prends un signe que je le prends dans sa forme interne à un mot. Si je n'ai pas de point diacritique, j'ai ce signe-là qui pourra être lu N, qui pourra être lu T, qui pourra être lu B, ou qui pourra être lu Ilon. Donc, tant que je n'ai pas de points diacritiques qui sont placés pour fixer le ductus consonantique, mais je suis dans un alphabet qui est excessivement peu précis. Le texte écrit sert davantage de support d'aide-mémoire pour quelqu'un qui le connaît que d'outils de lecture pour quelqu'un qui aurait à le découvrir. Et il y a l'autre aspect aussi, c'est que la langue arabe, comme l'hébreu également, mais ne connaît que les voyelles longues et la vocalisation d'un même schème consonantique peut être faite de différentes façons suivant la façon de placer les voyelles brèves. Et donc, la précision de l'alphabet pour arriver à un texte qui peut être lu par quelqu'un qui ne le connaît pas suppose non seulement de placer les points diacritiques, mais également de mettre en place une vocalisation brève. Et donc, de mettre un petit signe au-dessus ou en dessous de la consonne pour dire comment elle doit être vocalisée. Donc, si je reprends mon T, ce sera ta, ti ou tout, suivant la façon dont j'introduirai ma voyelle brève. Alors, on voit bien au niveau des points diacritiques qu'on va évidemment fort loin dans les variations possibles quand il n'y a pas de point diacritique placé, mais au niveau des voyelles brèves, on peut avoir des sens quand même fort différents aussi. Hein, si on prend une forme verbale, par exemple, suivant qu'on la vocalise d'une façon ou d'une autre, un verbe peut être au passif ou à l'actif, donc inverser le sens d'une phrase. Donc l'introduction des voyelles brèves sera un élément important également. Et selon la tradition musulmane, c'est encore un peu plus tard, donc sous l'influence du gouverneur El-Hajjaj, que Abdelmalik, entre 685 et 705 de notre ère, introduit ces voyelles brèves et les points diacritiques et fixe la vocalisation du ductus consonantique qui avait été fixé dans la version de Uthman. Vous comprenez que ce travail est un travail qui offre évidemment à discussion quand différentes versions ont été reçues pendant toute une période. Et c'est ainsi que, même au moment où on fixe le ductus consonantique et qu'on met les voyelles brèves et les points diacritiques, on reconnaît encore, suivant les écoles juridiques, la légitimité de 7, 10 ou 14 lectures différentes. Ce n'est pas des différences fondamentales, ce n'est pas des points très importants, mais des petites variantes selon les lectures, et qui sont reçues comme des lectures légitimes et qui conduiront au développement d'une science particulière que l'on appellera la science des lectures. Donc la connaissance des différentes lectures qui ont été reçues par la tradition comme un moyen de comprendre le sens du texte. Et chaque lecture particulière se rattache à un porteur du Coran par une chaîne de transmission. Donc voilà les grandes étapes qui ont marqué la mise en place du recueil de la révélation tel que la tradition musulmane l'a reçu. Mais vous vous rappellerez que lors des deux premières séances, j'avais invité à pouvoir aussi se poser la question de savoir si le récit traditionnel des origines de la vie du prophète et des origines de l'islam, jusque et y compris les quatre califes bien guidés, devait vraiment être considéré comme un récit historique ou davantage comme un récit d'origine produit ultérieurement et qui donc vise à dire l'identité croyante de l'époque où le texte est produit, bien plus que de l'époque à laquelle il se réfère. Si on prend cette hypothèse comme une hypothèse possible, et si on tient compte des recherches les plus récentes qui sont faites sur le texte du Coran, en particulier à partir des études narratives, ces recherches les plus récentes pointent effectivement pour la production d'un texte nettement plus tardive que ce que n'en dit la tradition, qui, elle, a le souci, évidemment, d'établir le lien avec l'origine sans discontinuité. Donc, on pourrait avoir la production d'un texte avec un alphabet qui est déjà entièrement établi, peut-être à Damas, et même, plus vraisemblablement, à Bagdad même. Donc, on pourrait, du point de vue historique, voir, mais là je quitte bien sûr le point de vue traditionnel de l'islam, celui, le point de vue traditionnel c'est celui que j'ai présenté jusque maintenant, mais c'est sûr que les études historiques actuelles pointent vers un rôle en tout cas fort important de l'intervention rédactionnelle qui s'est passée plus tard. Mais comme je le disais aussi lors des premières séances, ces recherches ne sont pas encore suffisamment élaborées pour qu'on puisse, de façon très précise, dire si cela concerne l'ensemble du texte ou si cela concerne certaines parties et voir dans quelle mesure il y aurait un substrat plus ancien. C'est donc l'aspect critique que l'on peut émettre par rapport à la présentation traditionnelle de l'histoire de la révélation telle que la tradition musulmane nous la donne. J'aime aussi personnellement souligner une autre étape que personne là ne viendra me contester, mais dont le poids, à mon avis, est souvent tout à fait sous-estimé. C'est le passage à l'imprimé. La première édition imprimée du Coran n'est pas très ancienne. Elle remonte à 1923, à l'initiative et sous le patronage du roi Fouad Ier d'Égypte. Et c'est la maison d'édition Dar el-Kutub qui édite en 1923 un Coran imprimé qui est diffusé dans le monde entier. Alors je pense qu'on a là un élément majeur dont il serait intéressant d'étudier la portée pour comprendre aussi les difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Car l'objet Coran, par le recours à l'impression, change assez fort de statut. Tout d'abord, d'un objet rare, il devient un objet prolifique. On en trouve partout. Tout le monde peut avoir un Coran. Le Coran lui-même est très largement diffusé. Donc le texte est très largement diffusé. Mais l'autre différence majeure, c'est que dans l'édition imprimée qui a été faite, il y a nécessairement eu le choix d'une lecture. Et le travail a été fait sérieusement pour essayer d'avoir la lecture la meilleure. Je vous mets dans le syllabus que c'est la lecture d'Asim bin Ali el-Najjoub, transmise par Hafs bin Suleyman de l'école de Koufa avec certaines corrections. Donc il y a eu un travail scientifique pour choisir une lecture particulière. Il n'y a évidemment pas de contestation à faire de ce travail, enfin on peut éventuellement le discuter, mais la question pour moi n'est pas là. La question c'est de dire qu'à partir du moment où on recourt au Coran imprimé en ayant fait le choix d'une lecture, on a tous le même. On a tous le même. Et tant qu'on était dans la logique des manuscrits, mais suivant la tradition de transmission, il pouvait y avoir des mineurs, mais des petites variantes entre votre Coran et le mien. Petites variantes. Mais dans le rapport au texte, ça change quand même fondamentalement la chose, surtout dans le schéma de révélation que porte l'islam. Un schéma d'une descente. Tant qu'on est dans une tradition qui reconnaît une certaine pluralité de lecture, de dire, ben oui, à l'origine, il y a eu plusieurs versions, et puis le calife Osman, il a envoyé dans quatre villes en demandant de détruire les autres, mais enfin, on tenait encore compte des lectures des autres pour savoir lire celui d'Osman, et puis même la version après celle d'Osman a été unique, mais enfin, il pouvait encore y avoir 7, 10 ou 14 lectures, quoi. On reconnaît dans la tradition musulmane elle-même un certain pluriel. Et donc, d'une certaine façon, une non-adéquation parfaite et totale de la révélation écrite avec Umm al-Kitab, le livre mère. On sait, on voit, on expérimente tous les jours la différence, puisque votre Coran est un peu différent du mien. Mais une fois qu'on passe au Coran écrit, qu'on passe au Coran imprimé, qu'on a tous la même version, je suis sûr que de très nombreux musulmans ne savent même pas qu'il y a pas si longtemps, un siècle, les lectures différentes étaient communes parce qu'on se transmettait des manuscrits et que la science des lectures est une des grandes sciences de la tradition musulmane. Qui connaît encore la science des lectures aujourd'hui dans le monde musulman ? Ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Et donc, il y a un rapport à la révélation qui, de ce fait-là, à mon avis, a fort changé. Et on sous-estime, ce n'est pas un fait religieux, c'est un fait d'histoire. C'est un fait d'histoire. Le passage à l'imprimé a changé le statut du texte. Et le schéma de révélation a fait que le Coran imprimé est devenu comme une photocopie de la mère du livre qui est de toute éternité auprès de Dieu. Et cela, la tradition ne l'a jamais dit. Non seulement parce qu'il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque, mais aussi parce qu'il y avait un sens d'un certain pluriel, tout en vénérant le texte, bien sûr, comme révélation de la parole de Dieu. Donc ça, c'est une étape qui me paraît importante à signaler aussi, parce qu'elle est, à mon avis, souvent sous-estimée. Et je disais, donc c'est 1923, ce n'est pas loin, et c'est après cette période-là que se sont développés tous les mouvements qui ont quelques difficultés à vivre aujourd'hui dans le monde moderne, dans le monde tel qu'il est. N'est-ce pas lié en partie à un rapport qui s'est appauvri à la révélation par l'effet induit du recours à l'imprimé? Je voudrais alors, après avoir dit quelques mots ainsi sur l'importance et la place du Coran et son histoire, poursuivre par quelques mots sur la tradition ou sunna du prophète. Après la mort du prophète, il y a eu le souci non seulement de conserver ce qu'il avait donné comme révélation, mais la place qu'il occupait au sein de la communauté était telle qu'on a voulu aussi conserver ce qu'il faisait personnellement, ce qu'il considérait comme bien ou comme pas bien, ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait éviter. Il y a une tradition du prophète qui s'est progressivement instaurée et qui a une certaine valeur normative. Elle n'a pas le statut de la révélation divine, mais elle a comme un statut secondaire, parce que, d'une part, elle aide à comprendre la révélation. Je vous parlais des asbab et nuzul, les causes de la révélation, on se réfère à la vie du prophète. Et donc, la vie du prophète et la révélation, finalement, ne peuvent pas être simplement coupées comme deux corps qui n'auraient rien à voir. Au début, le Coran était la seule autorité religieuse et on se contentait de transmettre ce qu'on appelle les hadiths. C'est un mot arabe qui veut dire les récits, les propos, les paroles de mémoire. Le travail de collecte de ces traditions ne commença qu'à la fin du premier siècle de l'Égypte et ne devint systématique qu'au IIIe siècle. Encore une fois, version traditionnelle officielle. Et donc, on se retrouve de nouveau à cette même période que les recherches historiques aujourd'hui considèrent comme la période déterminante pour la structuration de l'islam. L'extension de la communauté musulmane posait effectivement des problèmes nouveaux qui n'avaient pas forcément été abordés par le Coran, et c'est ce qui a conduit ainsi à interroger un peu plus systématiquement les propos, les actions du prophète. Mais c'est seulement à l'époque abbasside que la tradition acquiert vraiment sa place en tant que qu'autorité et source de législation, en particulier du droit, immédiatement après le Coran. La tradition, suivant les cas, confirme, complète ou explicite des éléments du Coran, ou encore éclaire des points qui étaient laissés dans l'ombre par la révélation. Et la révélation, l'opinion la plus commune, considère la tradition du prophète comme étant en quelque sorte sous une lumière révélée, en continuation et explicitation du Coran. Alors ces traditions, ces hadiths, ces récits, une fois qu'ils sont conservés, comportent en fait deux parties. Il y a d'une part, on est au IIIe siècle, au moment où on formalise un petit peu, il y a d'une part la chaîne des transmetteurs. si je dis que, le prophète priait à telle heure, et que je vis 3 siècles plus tard, je dois pouvoir dire de qui je le tiens et remonter jusqu'à un compagnon du prophète. Donc, tout hadith comprend une chaîne des transmetteurs qui authentifie la possibilité d'une transmission. Et la deuxième partie du hadith concerne le récit lui-même. Hein, le prophète priait à 7 heures du matin quand il se levait. Bon. concerne le récit lui-même. Mais les conflits et les intérêts divergents qui ont traversé la communauté musulmane naissante, nous avons eu l'occasion de le souligner la semaine dernière en percevant un peu ce déploiement historique et toutes les tensions qui ont été réglées. Ces conflits et ces intérêts divergents conduisent évidemment à un développement très important de traditions, hein, les uns s'appuyant sur telle habitude du prophète, les autres sur telle autre habitude, les troisièmes en inventant une pour appuyer leur propre position. Du moment qu'on a une chaîne de transmetteurs valable, on peut finalement produire n'importe quel récit, hein, sur les habitudes, les opinions, les façons de faire ou de ne pas faire du prophète. Et donc très vite, mais les musulmans se sont rendus compte effectivement, hein, d'une prolifération de traditions qui étaient en partie contradictoires, et ils ont entrepris tout un travail critique qui a abouti à l'établissement de recueils de traditions sûres. Alors ce travail critique n'est qu'en partie critique, parce qu'il est il a porté principalement sur les chaînes de transmetteurs. Et donc, on a considéré comme non fiable, évidemment, toutes les traditions dont la chaîne de transmetteurs était soit brisée, soit invraisemblable. C'est un travail assez simple. Mais évidemment, le fait d'avoir une bonne chaîne de transmission n'empêchait pas de produire alors des traditions divergentes. Et donc, le travail alors l'a été fait dans une confrontation avec aussi le donné révélé pour établir l'authenticité de ces traditions, de ces hadiths. Il y a donc une autre science, la science du hadith, qui s'est développée et qui a conduit à attribuer des degrés de fiabilité aux différentes traditions du prophète, et qui ont amené alors à la constitution de recueils de traditions admises comme authentiques, dont les plus célèbres, hein, sont de la fin du 9e siècle de notre ère, vers 870. Mais vous percevez bien que dans une situation dont on a vu la fois dernière que les enjeux, les tensions d'ordre aussi politique ne sont pas absents, l'acte d'établir quelles sont les traditions authentiques et non authentiques est bien sûr un acte scientifique, il est aussi un acte politique, un acte de pouvoir, hein, d'établir une ligne qui est conforme à ce qu'a été la vie du prophète. Donc du point de vue critique, hein, on peut émettre aussi quelques questions, hein, sur ces recueils de traditions qui ont été produits dans un contexte où les enjeux ne sont pas que des enjeux scientifiques et religieux, évidemment. Coran et tradition constituent les deux pièces majeures de la révélation et les sources de la foi pour les musulmans. Toutes les sciences qui se développeront à partir des données, hein, principalement, massivement du Coran et de façon adjuvante des traditions. Alors, pour terminer notre rencontre de ce soir, j'avais souhaité quand même que nous lisions un petit texte, hein, pour ne pas rester dans des considérations générales. Et sur la feuille de route que vous avez, je vous ai mis un essai d'interprétation en langue française de la sourate 1 du Coran. Si on ne parlera pas de traduction, le Coran est intraduisible. Il est en langue arabe et c'est ainsi que les paroles de Dieu révélées. Donc le musulman récitera toujours le Coran en langue arabe, mais on peut faire des essais d'interprétation dans une autre langue. On évitera même d'utiliser le mot de traduction, hein, qui pourrait laisser croire que c'est équivalent. Et donc je vous ai mis un essai d'interprétation en langue française de la première sourate du Coran, Al-Fatiha. Si j'ai choisi cette sourate, c'est parce qu'elle tient une place toute particulière dans la vie de prière des croyants. Mutatis mutandis, on pourrait dire que c'est le Notre Père des musulmans. Donc c'est une prière qui tient une place prépondérante et qui est récitée très souvent. C'est aussi une sourate qui, en arabe, est très belle, avec un très beau rythme poétique. Une sourate qui exprime l'expérience religieuse fondamentale des musulmans, du prophète Mohammed et des musulmans à sa suite, et qui, je crois, nous fait toucher un peu du doigt, mais le cœur de cette expérience croyante, dans laquelle nous entrerons plus explicitement la semaine prochaine, lorsque nous aborderons les croyances de foi et le culte prescrit. Au nom d'Allah, on pourrait dire aussi au nom de Dieu, parce que finalement, le mot Allah, en arabe, c'est simplement le mot Dieu. Les chrétiens arabophones utilisent le mot Allah aussi pour désigner Dieu. Au nom d'Allah, le bienfaiteur miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, le sens de Dieu comme créateur, Seigneur des mondes, bienfaiteur miséricordieux, souverain du jour du jugement. L'aspect du jugement, très présent dans la première prédication coranique, et nous voyons ici, renvoie vraiment à la souveraineté de Dieu. Souverain du jour du jugement. C'est toi que nous adorons, toi dont nous demandons l'aide. Conduis-nous dans la voie droite, la voie de ceux à qui tu as donné tes bienfaits, qui ne sont ni l'objet de ton courroux, ni les égarés. La révélation conduit le croyant à vivre vraiment devant Dieu, en l'adorant et en demandant son aide, en lui demandant de le conduire sur la voie droite. Je vous disais que le Coran est ce qui indique le chemin, qui permet d'éviter le mal et de faire le bien, et qui préserve du chemin à la fois de ceux qui sont l'objet du courroux de Dieu et les égarés. La révélation, je ne dirais pas qu'on peut exactement identifier ceux qui sont l'objet du courroux et les égarés à ces deux catégories, mais c'est une approche que l'on retrouve très souvent dans la conception issue de la révélation. C'est qu'il y a d'une part ceux qui vivent selon le chemin de Dieu tel qu'il est révélé dans le Coran, ceux qui sont sur la voie de ceux à qui Dieu donne ses bienfaits. Il y a alors ceux qui sont à l'extrême opposé, qui sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et puis enfin, il y a un espèce d'entre-deux, qui sont les égarés, et qui pourrait d'une certaine façon, recouvrir ce que l'islam considère en général un des autres croyants, les juifs et les chrétiens en particulier, hein, qui affirment être des croyants au Dieu unique et qui pourtant, à travers leur révélation, se sont un peu égarés, quoi, se sont tellement éloignés de ce que Dieu avait révélé de façon unique à travers les différentes étapes de la révélation. Donc un petit texte qui tient une place très importante dans le cœur, la foi et la prière des musulmans et qui nous fait aussi percevoir, je crois, les éléments centraux de l'attitude religieuse du croyant. Hein, car la perception qu'on a souvent en Occident de l'islam ne porte que rarement sur ce qui fait le cœur de l'expérience croyante. Il me semble que la sourate Al-Fatiha, la première, nous permet de percevoir quelque peu hein, ce qui fait le cœur de l'expérience croyante pour les musulmans. Eh bien, je vous remercie pour votre patience et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine où nous entrerons dans la matière du Coran en abordant deux points traditionnels, les croyances de foi d'une part, le culte prescrit d'autre part. Bonne soirée.